L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici donc l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, ici et la RTBF. Et d'abord cette catastrophe naturelle jamais vue en Suisse, le glacier de Birch en Valais s'est effondré. Des images impressionnantes, il était mis sous pression par les masses rocheuses d'une montagne qui s'effrite, Pierre Anchoffat.
Le scénario du pire s'est concrétisé. 3 millions de mètres cubes de gravats comblent la vallée touristique du Lunchental. Le village de Blatten est littéralement rasé de la carte.
En Belgique, une nouvelle enquête du magazine Investigation de la RTBF révèle la présence de TFA dans des bouteilles d'eau minérale naturelle. Le TFA, c'est le plus petit des PFAS, des polluants éternels, Jacques Remers.
Oui, des PFAS, il y en a déjà dans l'eau de distribution. Notre magazine l'avait démontré dans une précédente enquête. Cette fois, 6 marques d'eau minérale en bouteille ont été testées et seules 2 d'entre elles sortent du lot sans aucun polluant.
C'est un fameux pas en arrière en France. L'Assemblée nationale a voté cette semaine la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Ces zones excluaient d'une quarantaine d'agglomérations les véhicules les plus polluants. Cette députée écologiste est écœurée.
C'est encore une fois le triomphe des post-vérités, du trumpisme, des mensonges. On a entendu pendant des heures le Rassemblement national nous raconter n'importe quoi sur la pollution de l'air.
Reportage à l'Assemblée nationale en France dans quelques instants. Le pouvoir l'accuse de trahison. L'ancien président congolais Joseph Kabila, absent du pays depuis 3 ans, est revenu à Goma, dans la zone contrôlée par la rébellion de l'AFC M23, Nicolas Sûr.
Oui, Joseph Kabila, qui dénonce la dictature de son successeur Félix Tshisekedi, y a commencé des consultations.
Enfin, nous nous quitterons sur le discours d'un roi, celui de Charles III. Le monarque britannique est venu défendre la souveraineté du Canada cette semaine à Ottawa, Nadi Mobarak.
Oui, dans le cadre du discours du trône prononcé par un monarque pour la première fois depuis 1977.
Nous vous en parlions la semaine dernière. Le pire scénario s'est donc produit dans les Alpes suisses. Mercredi après-midi, le glacier qui surplombe la vallée du Lütschental en Valais s'est effondré. Il a détruit le village de Blatten, heureusement évacué, Pierron.
Imaginez, Olivier, une masse de gravats qui remplit la vallée sur plus de 2 km, d'une épaisseur jusqu'à 100 mètres. Pire, cette masse a formé un barrage sur le lit de la Lonza, créant un lac artificiel qui pourrait à son tour se déverser en lave torrentielle jusqu'en plaine dans la vallée du Rhône. Pour le chef du service des dangers naturels, Raphaël Maiora, les plans d'évacuation des localités en aval doivent être maintenus.
Le scénario d'une évacuation, il va durer encore des semaines. Tant que la Lonza n'a pas fait un chenal relativement stable à travers tout ce dépôt, il y a toujours la possibilité de formation de poches d'eau. Donc on doit rester vigilant. Dans une situation comme ça, la pire des choses, c'est de lever la garde alors qu'on n'est pas certain que le danger est écarté.
L'armée est sur place mais ne peut engager ses équipements lourds. La masse est trop instable, d'où la frustration du divisionnaire Reynald Drault.
On se retrouve dans une certaine frustration vis-à-vis de l'opération en tout cas, parce que la masse est dangereuse, la masse est instable. On n'a pas de spécialiste qui peut nous dire de manière sûre de quelle manière elle va réagir. Donc on est dans l'observation, mais on est surtout dans la préparation afin d'assurer les missions qui pourraient venir ces prochaines heures.
Une masse qui va se stabiliser avec le temps, mais qui va rester là et changer la morphologie de cette vallée touristique. Christophe Darbelet, membre du gouvernement valaisan.
C'est impossible de déblayer ces débris. Si vous mettez ça sur des semi-remorques alignées, mis bout à bout, vous partez d'ici et vous arrivez au Cap Nord. C'est pratiquement impossible, donc ces gravats vont rester là, le village restera sous les gravats.
Et on reconstruira peut-être le village par-dessus.
Ou ailleurs, ou je sais pas. Pour l'instant, c'est très difficile à dire, mais on peut pas imaginer qu'un village pluricentenaire puisse complètement disparaître de la carte. La nécessité de se projeter, eh bien, c'est quelque chose de profondément humain, mais évidemment, c'est pas si évident à imaginer l'avenir de ce village.
Pour l'instant, c'est un élan de solidarité qui se manifeste en faveur des 300 habitants de Blatten qui ont tout perdu.
À quelle eau, à quel type d'eau potable peut-on encore faire totalement confiance? Voilà la question que s'est posée le magazine Investigation de la RTBF en Belgique. Après avoir démontré la présence de PFAS, des polluants éternels, dans l'eau de distribution, nos collègues révèlent aujourd'hui la présence du plus petit polluant éternel dans des bouteilles d'eau minérale naturelle, Jacques.
On l'appelle le TFA. Nos collègues journalistes ont testé 6 marques de bouteilles d'eau minérale naturelle, des bouteilles d'eau de source belge et française. Des eaux qui ont été analysées par un laboratoire. Toutes sont supposées être d'une pureté originelle, sans aucun polluant, raison pour laquelle leur prix est environ 100 fois plus élevé que l'eau du robinet. Et pourtant, seules deux bouteilles testées sur les 6 ne contenaient aucun polluant. Dans les 4 autres bouteilles, le fameux TFA, le plus petit des PFAS, des teneurs allant de 90 à 2700 nanogrammes par litre. Cécile Bertrand est experte en santé publique à la Société scientifique de médecine générale.
Alors aujourd'hui, pour le TFA, on n'a pas encore vraiment beaucoup de données, mais on a des études de toxicité sur les mammifères. Et ces études, elles montrent vraiment des effets de toxicité, notamment sur le développement, sur la reproduction, et aussi des effets de toxicité hépatique, mais aussi sur notre système immunitaire.
L'experte en santé publique à l'instant, Cécile Bertrand. Alors Jacques, est-ce qu'on sait d'où proviennent ces TFA présents dans les bouteilles testées?
Oui, ce plus petit des polluants éternels est issu de la dégradation de pesticides dans l'environnement, mais aussi de gaz fluorés utilisés par exemple dans les climatiseurs ou les frigos industriels. Lorsque ces gaz s'échappent dans l'atmosphère, ils se transforment en TFA qui peut alors retomber dans l'eau de pluie partout sur la Terre et s'y infiltrer. Les producteurs d'eau en bouteille ne sont donc pas responsables de cette pollution. Les 4 marques affirment que leurs eaux sont conformes et sans danger. Il n'existe d'ailleurs en Belgique aucune norme contraignante pour le TFA dans les eaux en bouteille.
Et les résultats de cette enquête sont à lire sur le site RTBF Actu. On va parler environnement encore en France, cette fois avec ce recul dans la lutte contre la pollution dans les villes. Les députés français ont décidé cette semaine de supprimer les ZFE, les zones à faible émission. Ce sont en fait les endroits où les véhicules les plus polluants sont interdits, comme à Paris, à Lyon ou à Grenoble. En tout, une 40aine d'agglomérations. Le Rassemblement national et les Républicains ont en fait introduit un article à la loi de simplification de la vie économique pour supprimer ces ZFE. Ils parlent de discrimination à l'égard de ceux qui ne peuvent pas changer de véhicule. L'article a été adopté avec les voix des Insoumis à gauche et de quelques députés macronistes contre la volonté du gouvernement. Sonia Gobry était à l'Assemblée nationale pour Ici.
À l'énoncé du vote, salve d'applaudissements sur les bancs de la France insoumise, le député Gabriel Amar précise la position du groupe.
Nous sommes pour une écologie populaire. Nous sommes pour diminuer la pollution au milieu urbain, mais ça passe d'abord par plus de transports en commun, par des gratuités facilitées. Et après, on pourra actionner un autre levier qui sera celui d'une zone à faible émission.
Exaltation aussi à l'autre bout de l'hémicycle. Pour le RN, le député Pierre Meurin est en première ligne dans l'opposition aux zones à faible émission.
Je suis heureux d'avoir supprimé ce dispositif de séparatisme territorial et social et d'avoir une victoire pour les automobilistes de France et pour le peuple de France.
La députée écologiste Lisa Belloukot l'écoute exaspérée.
C'est encore une fois le triomphe des post-vérités, du trumpiste, des mensonges. On a entendu pendant des heures le Rassemblement national nous raconter n'importe quoi sur la pollution de l'air. Alors on ne nie pas qu'il y a des problématiques avec les ZFE et c'est pour ça que nous proposons de les améliorer, parce que c'est vrai que la situation actuelle peut générer de l'exclusion.
Avec des mesures pour aider les plus modestes, parce que la députée écologiste maintient que le dispositif zone à faible émission est nécessaire. Elle rappelle que la pollution de l'air est responsable de 40 000 décès prématurés par an.
Reportage de Sonia Gobry pour Ici.
L'accent des autres.
Le comeback de Joseph Kabila au Congo. L'ancien président avait quitté le pays depuis 3 ans, accusé par son successeur Félix Tshisekedi d'être derrière la rébellion de l'AFC M23. La rébellion qui a pris le contrôle de larges territoires dans l'est du Congo. Mais aujourd'hui donc, Joseph Kabila est de retour. Il est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Goma, au cœur de la zone contrôlée par le mouvement armé, où il a commencé des consultations, Nicolas.
C'est dans l'une de ses résidences au bord du lac Kivu que Joseph Kabila a reçu ses invités. Tête rasée, moustache taillée, costume sombre, l'ancien président s'est montré, comme d'habitude, peu bavard mais attentif. Avec ses hôtes, musulmans, membres des églises du réveil, armée du salut, orthodoxes, protestants, il a écouté, pris des notes et s'est présenté comme un homme de paix, affirmant sa volonté de contribuer à restaurer l'intégrité territoriale. Pas d'allusion à la rébellion, pas un mot sur Félix Tshisekedi.
Cela dit, en se montrant à Goma, Joseph Kabila assume la confrontation avec son successeur.
Oui, Joseph Kabila ne dit pas qu'il veut prendre la tête de la rébellion, mais Kinshasa, en tout cas, en est convaincu. Voilà des mois que Félix Tshisekedi l'accuse d'être derrière la FCM-23. En fin de semaine dernière, le Sénat a d'ailleurs voté la levée de son immunité parlementaire à la demande de la justice militaire qui veut le poursuivre pour trahison. Ces développements interviennent alors que des pourparlers sont en cours pour ramener la paix dans l'est du Congo. Les premiers sous médiation qatarienne entre Kinshasa et les rebelles du M23. Les seconds sous médiation américaine entre Kinshasa et le Rwanda, accusés de soutenir la rébellion, sans résultat pour le moment.
Nicolas Sûr pour RFI. On va se quitter cette semaine sur le discours du roi Charles III à l'occasion d'une visite éclair à Ottawa, cette semaine au Canada. Le roi a prononcé mardi le discours du trône. Ce discours, Nadi, qui marque la réouverture du Parlement canadien.
Tout à fait. Le monarque, qui est aussi le chef d'État du Canada, a tenu à entamer le discours du trône en exprimant l'amour qu'il porte au pays et l'admiration qu'il ressent pour les Canadiens. Il a eu aussi ses mots pour la langue française et la culture au Québec.
La langue française et la culture québécoise sont au cœur de l'identité canadienne. Elles définissent le pays que les Canadiens, les Canadiennes et moi aimons.
C'est la première fois qu'un monarque britannique lit le discours du trône depuis près de 50 ans, puisque le texte est habituellement prononcé par la gouverneure générale, la représentante du roi au Canada.
Et ce qui a rendu ce discours encore plus spécial, Nadi, c'est qu'il a été question d'un Canada fort et libre.
Oui, puisque l'exercice avait pour objectif, entre autres, de rappeler que le Canada est un pays souverain. Un message à peine voilé destiné au président Donald Trump qui a menacé le Canada de faire du pays le 51e État américain. On écoute à nouveau le roi.
Il nous faut confronter la réalité. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, notre monde n'a jamais été aussi dangereux et instable. Le Canada fait face à des défis qui, dans nos vies, sont sans précédent.
En tout, le roi a évoqué la question de la souveraineté du Canada de façon directe et indirecte une dizaine de fois lors de ce discours.
Et comment ont réagi les États-Unis, Nadi ?
Eh bien, peu de temps après la lecture de ce discours, Donald Trump a de nouveau invité le Canada à devenir le 51e État américain. En échange, le chef de la Maison-Blanche propose l'adhésion gratuite à son projet de bouclier antimissile Dôme d'Or. Dans le cas contraire, ce projet coûterait 61 milliards de dollars américains à Ottawa.
Nadi Mobarak pour refermer l'accent des autres au Canada cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous comme d'habitude. Les médias francophones publics vous retrouvent évidemment avec beaucoup de plaisir dans 8 jours. Belle fin de semaine.